Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ça fait maintenant plus de 2 ans que nous avons tous basculé dans une sorte d'irréalité un certain jour de novembre 2016.
Donald Trump will be the 45th president of the United States.
Ce jour-là, Donald Trump remportait la présidentielle américaine, accédant aux commandes de la première puissance mondiale, alors que jusqu'au bout, tout ça nous avait semblé comme une mauvaise blague. Irréalité, c'est un mot qui d'ailleurs convient assez bien au commander-in-chief des États-Unis, puisque son succès, sa capacité à fasciner tant ses soutiens que ses opposants, il tient en grande partie à sa conception extrêmement singulière de la vérité. Mentir, tordre les faits, dissimuler avec tout l'aplomb du monde et s'en sortir à peu près toujours, c'est ça son grand truc. C'est désormais bien connu, largement suivi et étudié par les médias du monde entier, mais on a eu envie d'apporter notre petite pierre à l'édifice du débunkage du Trump en testant au passage de nouvelles manières pour nous d'explorer l'actu, ce qui ne gâche rien. Je vous propose donc qu'ensemble nous vérifions le Trump, ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. On va faire très simple, en 6 étapes précisément, qui vont nous balader du Trump businessman au Trump politique en passant par le Trump privé. 6 affirmations qui circulent sur le 45e président des États-Unis et 6 petites mises au point.
Donald Trump a fait 6 fois faillite.
You are fake news. You are fake news.
Why Donald Trump is a loser. I want you to have the facts. Okay, so, fact number one, we talk about Donald Trump's first bankruptcy. Now, if you don't know, he's had 6. What an unbelievable loser.
Il faut évidemment préciser qu'il n'a jamais fait faillite en son nom propre, mais toujours au nom de ses entreprises. Une distinction importante, notamment au regard du droit américain qui autorise les entreprises, en cas de difficulté, par exemple, à assurer les remboursements des intérêts de ses investisseurs, à utiliser une disposition légale. On l'appelle le chapter 11, le chapitre 11. Il permet de remettre de l'ordre dans ses dettes, d'en transférer une partie tout en maintenant ses activités. Souvent, les perdants, ce sont les investisseurs qui voient leur retour diminuer ou rééchelonner. Donald Trump l'a donc fait 6 fois en tout, même s'il a longtemps affirmé ne l'avoir fait que 4 fois, ce qui est déjà beaucoup. La première faillite, elle date de 91, un an après le lancement en grande pompe du casino le Taj Mahal à Atlantic City, qui est un peu le Las Vegas de la côte est des États-Unis. La construction et la mise en route de l'établissement, présenté à l'époque comme le plus grand du monde, a coûté plus $1 milliard. Le problème, c'est que les taux d'intérêt décidés pour rembourser les investisseurs étaient bien trop élevés. Et donc, au bout d'un an d'exploitation, le Taj Mahal a dû se déclarer en faillite. La crise économique que traversaient les États-Unis n'avait pas beaucoup aidé non plus. D'ailleurs, ce sont les difficultés générées par cette récession qui ont entraîné la faillite de 2 autres projets de Trump, 2 casinos, toujours à Atlantic City, en mars 92. Mauvaise année pour les affaires du futur président, puisqu'un 3e établissement lui appartenant, le Plaza Hotel à New York, a également fait faillite cette année-là. La déveine s'est répétée au début des années 2000, en 2004 et 2009, avec la mise en faillite par 2 fois de son conglomérat d'hôtels et de casinos. Là encore, il ne faut pas exclure le facteur décisif qui a été la crise économique de 2008, mais bon, 6 fois quand même.
Donald Trump a été accusé d'agression sexuelle par au moins 19 femmes.
Histoire de pas me sentir trop seul face au Trump dans cet épisode et de donner une dose supplémentaire de profondeur à notre exercice du jour, j'ai passé un petit coup de fil à Elisabeth Fokker. Elle est docteure en civilisation américaine, elle enseigne à l'université Paris 1, on l'a déjà reçue dans Programme B, et je lui ai donc soumis l'affirmation que vous venez d'entendre.
Je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de regarder la réaction de Trump face à ces accusations. Pendant la campagne présidentielle, donc je pense que pas mal de gens s'en souviennent, Trump a minimisé les propos dégradants qu'il tient dans la vidéo de Access Hollywood.
When you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy. You can do anything.
Ce qui est intéressant dans la réaction de Trump face à ces accusations, c'est qu'il n'a pas dit que cette vidéo était un montage, que c'était truqué ou que c'était un deepfake. Il a dit en fait que ses propos étaient badins, qu'ils étaient classés dans la catégorie des blagues de vestiaire. Donc, comme ça, c'est son expression. Mais par contre, face à la multiplication des accusations de harcèlement ou d'affirmation d'agression sexuelle, là, Trump, il a tenu un discours vraiment différent. Il a démenti en bloc ces affirmations et donc il a utilisé son talisman rhétorique habituel qui consiste à dire que ces informations sont fausses, qu'elles sont non fondées et que tout ça fait partie d'un genre de cabale contre lui. Et ce qui est frappant entre ces deux exemples, en fait, c'est que dans le second, donc le cas des témoignages de femmes contre Trump, ces témoignages n'ont pas été considérés comme une preuve, oui. Contrairement à l'enregistrement de la voix de Trump dans la vidéo d'Access Hollywood. Et donc ça mène quand même à une interrogation plus globale, à savoir pourquoi Trump échappe à ces accusations, pourquoi on ne lui réserve pas un sort similaire à celui qui avait été réservé au producteur Harvey Weinstein. Autrement dit, pourquoi ces accusations ne sont pas suivies d'effets plus concrets. Donc, même s'il y a des procédures qui ont été lancées, il y a aussi un certain nombre de menaces, c'est-à-dire que les soutiens de Trump ont harcelé en ligne les plaignantes et ou les femmes qui avaient affirmé avoir subi des attouchements non consentis, avoir été embrassées de force par Trump. On a aussi des témoignages de son ex-femme qui parle de viols conjugaux. Donc, c'est quand même, on a un certain nombre de preuves qui incriminent Trump. Et donc c'est une question bien sûr complexe, mais on a beaucoup souligné dans les midterms de 2018, donc les élections de mi-mandat, le nombre élevé de femmes élues au Congrès, en particulier à la Chambre des représentants. Et puis peut-être que vos auditeurs ont aussi vu ces photos des femmes nouvellement élues au Congrès habillées en blanc, donc en hommage au mouvement des suffragettes au début du XXe siècle. Mais il faut quand même en parallèle souligner que ces accusations, et surtout le nombre de femmes qui ont témoigné contre Trump, enfin, on a 19 personnes, donc c'est quand même une accusation sévère, ça suggère quand même une certaine inaudibilité de la parole des femmes dans l'espace public. Et aussi un autre point que je trouve intéressant, c'est que sans aller jusqu'à l'invisibilisation de ces témoignages, on a clairement une hiérarchisation. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on a quand même plus parlé de la question de la collusion russe dans l'élection présidentielle que des accusations d'agression sexuelle dont Trump fait l'objet.
Donald Trump a proposé une taxe sur les super riches à 14,25%.
You proposed a one-time 14.25% tax on the rich, people who have more than $10 million to pay off the debt. Do you still support that?
Well, now we can't do that because the debt is so big. You know, that would have knocked out the debt. What I would have paid it, I'll tell you this.
Still would take a huge chunk out of it.
It would have taken 14% and we have no debt. I'd do that all day long. I would do that all day long.
Il le confirme lui-même dans cette interview à CNN qui date de la campagne présidentielle. Trump a bel et bien proposé une taxe exceptionnelle de 14,25% pour toutes les personnes dont le capital dépassait les 10 millions de dollars. C'était à la toute fin des années 90. À l'époque, Trump a déjà des ambitions présidentielles, même si elles sont bien plus modestes, puisqu'il est en lice pour remporter la primaire du Parti de la Réforme, outsider de la politique américaine, qui présente régulièrement des candidats depuis 96 avec un succès qu'on qualifiera pudiquement de mitigé. Bref, en 99, donc, Trump est en campagne et lance un certain nombre de propositions, dont celle-ci, pour réduire la dette américaine, une taxe exceptionnelle, un an seulement pour les plus riches, à 14,25% donc. Elle aurait, selon lui, permis de colmater le déficit public et remis l'Amérique sur les rails du succès. Il faut dire qu'à l'époque, la dette était bien moins élevée qu'aujourd'hui. La manière dont il avait présenté sa taxe est assez incroyable. On la croirait tirée d'un manifeste d'Occupy Wall Street. Voilà ce qu'il disait. « Selon mes estimations, 1% des Américains qui contrôlent 90% de la richesse de ce pays seraient affectés par ma réforme. Les 99% restants bénéficieraient de réductions importantes sur leur impôt sur le revenu. » Incroyable, c'est quasiment du communisme à l'échelle américaine. Alors évidemment, depuis, Trump n'a pas remis l'idée à l'agenda, il estime que le pays est bien trop endetté pour que la recette fonctionne. Il n'empêche, l'idée d'une taxe augmentée pour les plus riches, elle continue de faire son petit chemin aux États-Unis. Elle fait notamment partie des propositions d'Elizabeth Warren, une sénatrice démocrate, candidate à la primaire de son parti en vue des élections présidentielles de 2020 et ennemie jurée de Trump, qui l'a gratifié du sympathique surnom de Pocahontas, référence au fait qu'elle revendique l'héritage d'ancêtres amérindiens. Ça va être sympa, cette campagne.
Donald Trump a tenté de faire disparaître ses notes d'école.
Quiet, quiet, quiet.
Encore une fois, je laisse la parole à Elisabeth Fokker.
Et là encore, oui, Donald Trump a tenté de dissimuler ses résultats scolaires. Alors, la question n'est peut-être pas tant pourquoi Trump a tenté de faire disparaître ses notes d'école. On peut supposer que si elles étaient brillantes, elles auraient simplement corroboré ce qu'il dit en permanence. Quand il affirme par exemple qu'il était major de sa promo, qu'il est brillant... Et on imagine quand même assez mal Trump se priver d'une occasion de prouver son génie. Donc ça, c'est un autre point. Mais il semble que ça, que la question n'est pas du coup tant de savoir pourquoi il fait ça, mais plutôt ce que ça révèle.
Oui.
Donc déjà, cette crispation de la part de Trump sur la question des résultats scolaires, elle est assez paradoxale parce que on se souvient qu'il a passé la campagne de 2016 et toute sa présidence, tout son début de présidence jusqu'ici, quand même à attaquer les bureaucrates, les élites surdiplômées qui sont présentées comme des parasites bardés de diplômes, mais toujours inutiles à la société, car ils n'ont pas le bon sens du peuple. Donc le fait qu'il essaye de montrer que c'était un étudiant brillant, ça jure un petit peu avec l'argumentaire populiste et aussi producériste qui est le sien, et qui lui a permis de séduire une partie de l'électorat au moment de l'élection de 2016. Donc il y a une petite crispation là qui est assez intéressante, il me semble. Et ensuite, on peut aussi, je pense, s'interroger sur les pouvoirs de censure et de dissimulation de la présidence. Alors, bien sûr, on peut dire que la question des résultats scolaires, c'est une question triviale, que c'est un épiphénomène. On peut aussi en rire hein, et l'ajouter à la liste déjà longue et assez bien référencée des incohérences ou voire des aberrations de la présidence. Oui. Mais on peut aussi l'envisager comme un symptôme d'un dysfonctionnement plutôt fort, majeur, de la démocratie états-unienne, en particulier sur la question des exigences de transparence pour les dirigeants politiques. C'est-à-dire que il y a une certaine ironie là-dedans aussi, puisque Trump avait à l'époque de la présidence Obama, il avait exigé que Obama apporte des preuves tangibles de sa nationalité états-unienne. Et par preuve tangible, j'entends la publication de son certificat de naissance, donc, qui a été effectivement publié par Obama sur le site de la Maison-Blanche, puisque la citoyenneté aussi états-unienne est une précondition pour devenir président des États-Unis. Et donc aujourd'hui, Trump, il est acculé d'une manière similaire, sauf que lui ne prend pas la voie de la transparence, mais celle de la dissimulation. Et c'est le fait même qu'il puisse prendre cette voie, en toute impunité en fait, et qu'il puisse utiliser les pouvoirs de sa fonction à d'autres fins que la direction du pays, qui est vraiment problématique.
Est-ce que c'est symptomatique aussi de son rapport, on va dire, fluctuant avec la vérité ?
Oui, je pense que c'est une des caractéristiques, c'est une des constantes en fait avec le discours de Trump. Je pense que l'arme de Trump, c'est ce bouclier de la post-vérité, comme on dit, c'est-à-dire de dire que en fait, on est dans une ère où la conviction politique, la certitude politique, est plus importante que la véracité des faits qui sont énoncés, et que le débat n'est plus sur l'interprétation des faits, mais sur les faits eux-mêmes. Et c'est là où Trump est quand même assez fort, mine de rien, c'est que il utilise ça de manière systématique, ce qui permet de déstabiliser beaucoup les adversaires qui, eux, fonctionnent sur une grille, on va dire, de dialogue et d'interprétation qui est celle, souvent, quand même, des faits. Donc, je pense que ça illustre parfaitement, en fait, la stratégie de Trump, qui est une stratégie de déstabilisation permanente, en insinuant toujours une interrogation sur la véracité de ce qui est énoncé.
Donald Trump a été démocrate de 2001 à 2009. I don't know what I said.
I don't remember. In New York City, everybody was a Democrat.
Oui, il a effectivement été enregistré comme démocrate au début des années 2000. Le terme « enregistré » peut paraître un peu étrange. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le processus électoral est un peu plus complexe qu'en France. Pour voter, il faut, comme chez nous, être inscrit sur les listes électorales. Mais l'inscription se fait de manière plus précise, notamment géographiquement parlant, puisqu'on ne vote pas là-bas uniquement pour un type d'élection, mais pour plusieurs à la fois. Lors de la présidentielle, par exemple, on peut être également amené à choisir le sénateur de son État, des représentants locaux, etc., etc. Pour s'inscrire, on remplit donc un formulaire sur lequel il est demandé si on souhaite s'affilier à l'un ou l'autre des partis politiques du pays, démocrates, républicains évidemment, mais aussi les indépendants comme les Verts, le Parti de la Réforme dont on parlait tout à l'heure, et quelques autres. Cette information, qui n'est pas obligatoire, elle permet une chose, c'est de voter lors des primaires de tel ou tel parti. En effet, si lors des inscriptions sur les listes, on ne se déclare pas comme affilié au parti, on ne peut pas, dans la plupart des États, voter aux primaires pour choisir le candidat au présidentiel, par exemple. C'est dans cette optique que de nombreux Américains choisissent de s'affilier au parti dont ils se sentent le plus proche. Ça ne veut pas dire qu'ils voteront pas pour un autre parti lors de l'élection finale, mais c'est un indicateur assez instructif, dirons-nous, surtout lorsqu'on se retrouve par la suite à porter les couleurs du parti adverse.
I think that nobody's really hitting it right. The Democrats are too far left, the Republicans are too far right. And I don't think anybody's hitting the chord, not the chord that I want to hear and not the chord that other people want to hear.
Notez bien que comme Trump l'a lui-même dit et répété lorsque cette info a été rendue publique, il n'est pas le premier républicain à avoir fait la bascule. Il a un précédent tout à fait notable en la personne de Ronald Reagan, président républicain de 81 à 89 et militant démocrate jusqu'au début des années 60. Décidément un modèle pour Trump à bien des égards.
Donald Trump a continué le développement d'un projet d'immeuble à Moscou pendant sa campagne présidentielle. I want to find a friendly
report. Bon, vous avez sans doute compris l'idée, vous vous en doutez que tout est vrai, même les trucs les plus énormes. Et comme c'est la dernière, je passe une ultime fois la main à Elisabeth Fokker.
Trump, comme on le sait ou comme on peut l'avoir constaté, n'est pas empêché par grand-chose. Il a globalement peu d'écart pour les codes, le décorum, les conventions. Et d'ailleurs, comme il le déclare clairement en permanence, c'est un président, je cite Trump lui-même, qui est le plus grand pourvoyeur d'informations et de mythes à son propos, un président hors norme. Et donc pour revenir à la question, dans l'enquête de Mueller, on a une information sur un projet de construction. Alors, bien sûr, c'est Trump, donc c'est un projet de construction du bâtiment le plus haut d'Europe, donc la Trump Tower à Moscou, à l'image de Trump, grandiloquente, avec une salle spéciale aussi qui était réservée au président Poutine. Et le débat porte sur le fait que les négociations sur ce projet immobilier se seraient poursuivies après l'investiture de Trump par le Parti républicain et donc aussi, bien sûr, pendant la saison des primaires. Dans d'autres dossiers, la question principale, c'est celle du détournement du pouvoir. La manière dont Trump utilise, dans ce cas précis, l'institution présidentielle à des fins d'enrichissement personnel. Donc ça, c'est la question centrale. Et encore une fois, on est face, ça c'est vraiment intéressant, je pense, encore une fois, on est face à un système politique qui tolère ça. C'est-à-dire que les contre-pouvoirs qui sont censés s'exercer contre Trump, c'est-à-dire le Congrès, la Cour suprême, des enquêtes diverses et variées, le FBI, semblent peu à même de corriger le tir. Et à une autre époque, dans les années 70 par exemple, les contre-pouvoirs ont fonctionné pendant la présidence de Richard Nixon, qui a été du coup accusé d'espionnage, accusé de dissimulation et d'utiliser son pouvoir de manière détournée. En tout cas pas à des fins strictement politiques, mais bien à des fins personnelles, et qu'à l'époque, les contre-pouvoirs, donc le quatrième pouvoir, la presse, le Congrès et la Cour suprême avaient exercé leur contre-pouvoir contre Nixon. À une autre époque, le système politique marchait peut-être un petit peu différemment, en tout cas, la barre était peut-être moins plus facilement atteignable pour destituer, clairement, là, parce que c'était le cas de Nixon, il y a eu un procès de destitution, il a démissionné avant d'être destitué, mais il y avait quand même la procédure qui était lancée, là on n'en est pas du tout là. Et donc je pense que juste pour conclure sur ce point, la question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse d'ailleurs, reste quelle est la manière la plus adaptée d'augmenter le coût politique et surtout symbolique de la corruption et du mensonge.
À notre liste, il manquerait presque une autre affirmation, sans doute la plus grave, qui d'ailleurs n'est pour l'instant qu'une question. Poutine a-t-il aidé Trump à se faire élire? Là, évidemment, je n'ai pas la réponse, puisque même la justice américaine, un poil plus équipée que Binge Audio, a du mal à démêler l'imbroglio de la possible ingérence russe lors de l'élection américaine. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, qui après 2 ans de boulot doit remettre à tout moment son rapport au ministère de la Justice. On l'annonce déjà comme le dossier politico-judiciaire le plus crucial depuis le Watergate et la démission de Nixon qu'on évoquait à l'instant. Ce sera sans doute l'occasion d'ailleurs de donner une suite à cet épisode. Merci à Elisabeth Fokker pour sa réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour nous suivre au quotidien. Et d'ailleurs, si cette appli s'avère être Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, ce serait bien chic de votre part. Sur ce, à demain pour un nouvel épisode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.